Alors Daniel Bensaïd, vous venez de publier un livre avec Olivier Besancenot, dont le sous-titre est « Pour un socialisme du XXIe siècle ». Alors le titre laisse entendre deux choses, à mon avis. La première, c'est qu'on a changé d'époque, peut-être.
Oui, aucun doute.
Et puis peut-être que la deuxième chose qui est sous-entendue, c'est que le socialisme comme réponse du XXe siècle était une... peut-être pas la bonne réponse, en tout cas qu'il y avait eu une erreur à ce moment-là.
Bon, on peut dire qu'il y a eu une, même des erreurs. Maintenant, il faut toujours faire la part du rôle des idées, et puis tout le monde ne découle pas des idées, hein, aussi des problèmes sociaux, des problèmes historiques. Donc il faut rentrer dans l'épaisseur du XXe siècle si on veut en sortir, en tirer le bilan. Maintenant, le socialisme du XXIe siècle, c'est que finalement tous les mots sont malades. Il y a pas, le vocabulaire n'est pas sorti indemne des déceptions et des épreuves du XXe siècle. Ce qui fait que chaque fois qu'on emploie un mot, que ce soit socialisme, communisme, révolution, on est obligé de redéfinir les contenus. Et c'est normal, en fonction d'abord des expériences négatives, et il y en a eu de très lourdes au XXe siècle, et aussi des conditions nouvelles, évidemment, et de problèmes qui n'étaient pas même imaginés dans leur ampleur au début du XXe siècle, notamment toute la question de l'écologie et du rapport à la planète. Bon, donc voilà, on n'a pas inventé la formule, hein, c'est quelque chose qui se cherche, qu'on trouve aussi bien dans les paroles d'Evo Morales en Bolivie. C'est toute une nouvelle génération qui embraye effectivement sur une nouvelle époque. Il y a quelque chose qui a basculé entre la chute du mur de Berlin, les attentats du 11 septembre, qui font qu'on est rentré dans une nouvelle séquence historique.
Alors quels sont un peu les grands traits, les réponses que vous apportez à cette nouvelle époque? Et est-ce que le mot socialisme, alors bon, vous avez parlé du piège que peuvent poser les différents mots employés, qu'est-ce que recouvre le mot socialisme dans le type de réponse que vous apportez?
Bon, je dirais d'abord, en fait, il y a un fil conducteur dans le bouquin qui part en fait de l'idée qu'on a et de l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui de la crise. Hein. On a commencé à écrire le bouquin pendant l'été 2008, donc avant que n'explose avec la faillite de Lehman Brothers la crise actuelle. Mais elle était, contrairement à ce qu'on dit souvent, largement prévisible. Alors le fil conducteur pour nous, c'est que cette crise est une crise en fait de la logique de marché et du fait que le marché puisse organiser rationnellement le monde. À l'évidence, il est générateur de crises, d'inégalités et d'injustices. Et face à la logique du marché, ce qui traverse le bouquin et ce qui donne le contenu à l'idée du socialisme pour nous, c'est pas est-ce que la révolution sera violente ou pas, mais c'est l'opposition, disons, de l'appropriation sociale et du bien commun au calcul égoïste et à la propriété privée. Et ça, on le décline aussi bien de manière très immédiate quand il s'agit de la défense et de la transformation des services publics ou de la défense des biens communs de l'humanité. Alors les plus élémentaires, évidemment, traditionnellement, c'est le droit à la terre et la question agraire qui reste dominante dans tous les pays dominés, hein, précisément. La question de l'accès à l'eau, qui a été à l'origine des mouvements sociaux en Bolivie, mais qui va devenir une des questions majeures. Hein. Plus d'un quart de l'humanité est pratiquement privée d'eau potable, avec les conséquences alimentaires et sanitaires qu'on imagine. Donc c'est une défense de biens communs inappropriables. Il y a une charte de l'eau, qui n'est pas partie d'ailleurs de mouvements d'extrême gauche, et même le droit à un air respirable, puisque le marché des droits à polluer vend aussi la possibilité de polluer l'air qu'on respire au quotidien. Et puis il y a des problèmes nouveaux qui touchent à la question de la propriété, tout ce qui touche à la propriété intellectuelle, aussi bien le brevetage du vivant que le brevetage des logiciels, qui signifie une privatisation du vivant et des savoirs, donc une extension de la privatisation du monde au détriment des biens communs, des principes d'égalité et de solidarité, ce qu'on sent bien aujourd'hui en France avec les réformes des hôpitaux, de l'université, et l'achèvement de la privatisation des services publics. C'est que s'il y a des résistances aussi obstinées, notamment dans les hôpitaux ou les écoles et les universités, c'est qu'on sent bien que sont en cause aujourd'hui des racines qui remontent loin, des principes, même s'ils ont été beaucoup malmenés, d'égalité et de solidarité, qui font que si les réformes en cours aboutissent, on risque d'ici quelques mois, quelques années, de se trouver dans un autre type de société. Bon, et je crois que ça explique aussi le fait qu'en France, il y ait une forme opiniâtre de résistance à l'heure actuelle.
Vous parlez de nouvelle époque, de nouveau socialisme. Bon, il y a aussi un nouveau parti en France, le nouveau parti anticapitaliste. Quelle part vous prenez dans sa construction? Comment vous voyez sa construction, vous qui êtes un des fondateurs de la LCR?
Ben d'abord, je dirais comme un grand soulagement, parce que les années 80 ont été les années pour moi les plus difficiles, hein, les années où, d'une certaine façon, les années Mitterrand ont désorienté et démoralisé la gauche. Bon, depuis le surgissement de la rébellion zapatiste et du mouvement altermondialiste, selon la formule qu'on utilise souvent, l'air a repris des couleurs. Maintenant, il n'était pas évident de réussir cette soudure de génération. Alors le nouveau parti anticapitaliste, c'était un projet que, bon, le petit bouquin Penser Agir, qui est paru parallèlement, reprend des articles depuis 1991 pour montrer que c'est presque immédiatement après la chute du mur de Berlin, on s'est dit... Il y a une nouvelle époque, donc il y a un nouveau projet à l'ordre du jour et les outils existants ne suffisent plus. Ça a pris plus de temps pour y arriver qu'on ne l'imaginait au début des années 90. Et ça a été rendu possible d'abord par le renouvellement des mouvements sociaux, des expériences des luttes sociales, etc. Et par l'arrivée d'une nouvelle génération, qui n'est pas seulement une nouvelle génération en termes biologiques, hein, que Olivier à sa manière symbolise. Et le bouquin signé à deux voulait aussi symboliser ça, hein, cette rencontre de deux générations sans crise ni conflit générationnel. C'est une génération, la mienne, qui est née dans une certaine séquence, qui était la guerre civile espagnole, la résistance, la libération, mai 68, qui a été nourrie à la source, finalement, d'une certaine histoire du mouvement ouvrier, et une génération, aujourd'hui, qui se forme au présent à partir des expériences altermondialistes, du discours zapatiste, des luttes écologiques, et qui, à la limite, a besoin de se réapproprier une histoire antérieure, donc qui remonte le temps alors que nous, on le descendait. Bon, voilà, le NPA, c'est une tentative de synthèse de ces approches, de ces expériences, de ces cultures différentes, et, pour essayer d'en faire une culture commune de résistance et de subversion. Il y a un bouquin qui sort là, dans 10 jours, de Philippe Pignard, d'ailleurs à la Découverte, qui s'appelle « Être anticapitaliste aujourd'hui », et que je trouve très éclairant, qui montre comment ce qu'on appelait les révolutionnaires hier, les anticapitalistes aujourd'hui, c'est pas seulement une différence de mots, mais c'est une différence d'expérience, d'approche. On venait beaucoup plus, disons, d'un armement idéologique ou théorique, alors qu'aujourd'hui, il y a une exploration plus expérimentale de tout ce qui amène à s'opposer au système, à découvrir que l'adversaire, au fond, c'est pas telle ou telle question, c'est pas telle ou telle réforme, mais c'est une logique de système aujourd'hui qui est en train de dévaster et la planète et la vie quotidienne de millions de gens.
Justement, une des questions clés que rencontrent qu'ont rencontré les mouvements de libération, c'est la question du pouvoir politique, le rapport au pouvoir, le pouvoir politique, mais aussi les rapports de pouvoir qui peuvent exister, y compris dans le militantisme. Est-ce que vous êtes encore léniniste?
Sûrement qu'Olivier dirait non. Et moi, je dirais que je suis léniniste libertaire. Mais ça, c'est un long débat. Je pense que ce pauvre Lénine, qui est le Marx est réhabilité, Trotsky a été victime. Donc, Lénine est le vilain de la bande dans ce qui reste, moins que Staline, mais presque autant. Ça me paraît très injuste. Les gens ne connaissent pas, en réalité, la pensée de Lénine sur la question de l'indépendance des syndicats par rapport à l'État. Il était sûrement beaucoup plus juste que Trotsky. Il avait plus une certaine idée du pluralisme, bizarrement. Bon, et le parti bolchevique n'est pas le parti d'acier que la légende a voulu croire. Après, c'était un vaste bordel, en réalité, si on regarde ce qu'a été réellement les données historiques. Donc, je dirais oui. Alors, mais en fait, la question derrière, c'est la question du pouvoir. Je crois qu'on sort d'une séquence d'une dizaine d'années où la méfiance compréhensible et légitime envers la politique, envers les partis, envers le pouvoir, a fait qu'on a voulu ignorer la question du pouvoir, dire que les mouvements sociaux se suffisaient à eux-mêmes. La crise est tellement brutale aujourd'hui qu'on voit très bien que à vouloir ignorer la question du pouvoir, il risque d'arriver ce qui est arrivé aux libertaires de Catalogne en 1937, c'est qu'ils ont été rattrapés par la question du pouvoir. Donc il vaut mieux la penser pour la contrôler, la maîtriser, que de l'ignorer. Après, elle est multiple, hein. Il y a des rapports de pouvoir dans la vie quotidienne, il y a des contre-pouvoirs, mais le pouvoir politique, lui, l'adversaire est organisé, concentré. Donc pour nous, il s'agit effectivement de faire converger des contre-pouvoirs pour constituer un pouvoir alternatif.
Une dernière question. Bon, on est le 1er mai. Ici à Arras, il y a eu une manifestation importante. Il devait y avoir 3000 personnes. L'année dernière, il y en avait moins de 100. On sent que dans toutes les villes, la mobilisation est très importante. Comment est-ce que vous voyez les suites du 1er mai ?
Il y a ce que j'espère et ce que je redoute. Bon, l'espoir, c'est que ça confirme la naissance d'un rapport de force qui s'est manifesté de façon croissante avec les journées du 29 janvier et du 19 mars, plus toutes les luttes importantes, locales, Molex, Caterpillar, Clairvoyes, ou les grandes mobilisations des hôpitaux ou de l'université. Maintenant, on voit bien la difficulté, c'est que le gouvernement a mis la barre très haut. Il peut faire des reculs symboliques sur la réforme des hôpitaux, de l'université, mais la logique des réformes reste en place. Donc, en fait, la question qui se pose pour aller au-delà de journées à répétition, dont on peut regretter d'ailleurs qu'elles aient été très espacées, il est dans l'air aujourd'hui l'idée d'une nouvelle journée d'action le 15 juin, ce qui serait une journée d'adieu avant les vacances. Bon, l'autre hypothèse qui est souhaitable, mais qui n'est pas seulement souhaitable, à laquelle on peut s'employer, c'est que surgissent des initiatives. Il y a une nouvelle journée commune des hôpitaux et des universités, je crois, le 7 ou le 12 mai de prévu, et que le 1er mai soit un tremplin qui donne confiance pour dire ça ne s'arrête pas là et on part en vacances. Parce que on sent bien, hein, ce que je disais là, c'est que ce que je ressens à travers une initiative comme l'appel des appels, que si les réformes aujourd'hui qui sont dans les tuyaux passent, on peut se retrouver d'ici peu dans un parti qui n'est plus le même visage, dans un pays, dans un parti aussi, qui n'est plus le même visage, mais où soient détruits des éléments de culture qui remontent loin. Vous êtes dans une région qui est bien placée pour les connaître, de solidarité, d'égalité, etc. Tout ça aujourd'hui est en péril. Ça explique l'acharnement. J'en ai connu des luttes à l'université, mais là, sur la ronde des obstinés, ça fait 40 jours qu'on tourne jour et nuit. Des collègues qui ne s'étaient même pas mobilisés au moment du passage de la loi l'an dernier. Donc il y a des ressources de résistance dans ce pays. Il serait dommage qu'elles s'épuisent et se gaspillent par une mobilisation en ordre dispersé, que tout ça ne converge pas sur un bras de fer avec le gouvernement, parce qu'il n'y a que ça qui peut le faire céder. Alors l'idée, d'aucuns parlent de grève générale, bien sûr c'est souhaitable. Comment y parvenir ? Soit les confédérations, mais j'en doute, se mettre d'accord pour une telle perspective, soit ça peut partir, finalement, en 68, personne n'avait appelé à la grève générale, hein, soit ça peut partir d'une convergence des luttes, des boîtes qui ferment, des boîtes licenciées, ce qu'on a souhaité, que si les Molex, Caterpillar, Continental lançaient un appel commun pour dire tous ceux qui sont licenciés ou menacés de licenciement ont fait une marche sur Paris, ça peut être un détonateur comme un autre. Bon, ça, après, on ne sait pas, on souhaite, mais... ce que je redoute d'avoir, y compris à mon échelle, avec la grève sur les universités, c'est que les gens sont tellement battus, on est en grève depuis pratiquement 3 mois, que si c'est une défaite, et ça peut l'être, hein, que la rentrée soit très morose et très amère. Bon, voilà ce qu'il s'agit d'éviter aussi. Voilà.
Merci bien.
Non, c'est moi qui vous remercie.